Vous écoutez France Musique.
La flûte à bec représente pour de nombreuses générations de collégiens un véritable traumatisme. Il fallait sortir de cette ornière. Ces propos, tenus par Vincent Maestracci, inspecteur général de l'éducation nationale, ont signé, il y a 5 ans, l'abolition, ou presque, de la flûte à bec dans les cours de musique au collège après 35 ans de règne et de controverses. Que font alors les collégiens durant leurs cours de musique depuis ? Du chant, essentiellement, répond l'Éducation nationale, qui depuis 2008 organise ses programmes d'éducation musicale au collège autour de 2 thèmes, percevoir et produire, autrement dit, apprendre à écouter et pratiquer, que ce soit le chant ou l'orchestre, qui se développe de plus en plus dans le secondaire. Si la musique reste obligatoire au collège, lorsqu'on entre au lycée, en revanche, elle peut devenir une option. Arcangelo Corelli, les Pink Floyd et Thierry Machuel sont les figures imposées cette année. Elle peut aussi s'inscrire dans le cadre de la série Elle, Art Musique, dispensée dans une 100aine de lycées en France, ou bien encore être au cœur du bac TMD, Technique de la Musique et de la Danse. Quoi de neuf dans l'éducation musicale en 2013 ? Quels professeurs recrute-t-on ? Pour quelle classe et pour quel programme demain ? Le point, aujourd'hui, sur l'enseignement de la musique au collège et au lycée et sur ses professeurs en compagnie de Marie-Hélène Duvigneau avec 3 acteurs de terrain, Emmanuel Villa-Lobos, Benoît Fauché et Antoine Mignon, invités de ce numéro de 30 minutes d'entracte.
Thank you.
Un extrait du troisième mouvement de la troisième symphonie de Brahms par les Berliner Philharmoniker dirigés par Eugène Nürrum, un enregistrement des années 50, choisi par Antoine Mignon. Bonjour Antoine Mignon.
Bonjour.
Vous êtes professeur de musique au lycée. Pourquoi avez-vous choisi cet extrait qu'on vient d'entendre ?
C'est un de mes premiers...
Au-delà de sa beauté ?
Alors évidemment, ouais. C'est un de mes premiers grands beaux souvenirs d'enseignement avec une petite élève de seconde, amateur que de hip-hop, de rap, arrivant au lycée. Et puis donc je passe cet extrait en classe. Et à la fin de l'extrait, elle relève sa tête, les larmes aux yeux, en me demandant de façon assez musclée de réécouter l'extrait, parce que visiblement ça l'avait profondément ému, le restant de la classe acquiesçant. On a réécouté cet extrait, voilà.
Une convertie,
je savais que là c'était gagné, ouais. Au moins pour elle.
Ouais. Ouais. Très bien. Alors je vous rappelle qu'aujourd'hui, dans 30 minutes d'entracte, on lève le voile sur, en tout cas on essaie d'éclaircir la place de la musique dans l'enseignement secondaire au collège et au lycée. Avec nous aujourd'hui Emmanuel Villa-Lobos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de musique également au collège.
Oui.
À Créteil.
Oui.
À vos côtés Benoît Fauché, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'IUFM de Paris. L'IUFM, c'est l'Institut universitaire de formation des maîtres. Vous formez des professeurs de musique, c'est bien ça?
Oui.
Après l'avoir été vous-même, je crois.
Après l'avoir été une dizaine d'années dans un collège de Sarcelles, dans un quartier complexe, mais passionnant.
Oui. On va en reparler, oui. Certainement. Et puis Antoine, qu'on a entendu, qui lui est professeur de musique au lycée Jean Villard. C'est à Meaux, c'est bien ça ?
Exactement. Voilà.
Et Marie-Hélène Duvigneau, bien sûr, comme tous les samedis. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour.
La musique fait beaucoup, elle facilite l'apprentissage, n'est-ce pas ?
Effectivement, mais bien que des chercheurs se penchent sur le phénomène depuis de nombreuses années, on ne sait pas encore comment la musique interagit avec l'esprit humain, mais une chose semble certaine, elle l'éveille. Le mécanisme est complexe, puisque l'activité musicale s'appliquerait à presque toutes les régions du cerveau que nous connaissons, et à presque tout le sous-système neural. C'est donc la quasi-totalité de cet organe central qui est engagé dans le processus. Et ce qui complique la compréhension des effets de la musique sur le cerveau, c'est qu'il n'y a pas un centre musical unique. Mais attention, nombre d'affirmations sensationnelles n'ont jamais pu être prouvées scientifiquement. C'est notamment le cas de ce qu'on appelle l'effet Mozart, qui suggère que l'écoute de la musique peut rendre plus intelligent. Il y a bien des signes qui indiquent que les enfants qui prennent des leçons de musique réussissent mieux certains types de tests, particulièrement ceux de la lecture et de la concentration. Mais si vous voulez que votre enfant soit meilleur en maths, même si l'apprentissage de la musique peut être un plus, pas de miracle à attendre. Lui faire jouer de l'instrument ne va pas le transformer en petit Einstein. Il n'en reste pas moins que les dernières recherches en neurosciences ont permis de découvrir que le cerveau des musiciens est différent de celui des individus qui n'ont pas reçu d'éducation musicale. Des zones de leur cortex frontal sont modifiées. Or, c'est justement le cortex frontal qui gère les tâches les plus complexes du processus cognitif chez l'homme, l'organisation, la pensée élaborée et le langage. Il semble également qu'apprendre à jouer d'un instrument développe les centres de l'attention de notre cerveau. Pas question pour les chercheurs de dire que la musique est seule responsable, mais elle paraît y contribuer efficacement. Bref, sans automatiquement rendre plus intelligent, la musique nous aide à nous concentrer et à apprendre, ce qui devrait être un bon argument en faveur de son développement à l'école.
Merci Marie-Hélène Duvigneau. Alors on pourrait préciser un petit peu, la musique, redisons-le, elle est obligatoire, l'éducation musicale est obligatoire au collège, elle ne l'est pas au primaire.
Elle n'est pas au primaire.
Mais on trouve quand même des écoles qui enseignent la musique, l'école primaire qui enseigne la musique.
Voilà, moi j'ai 9 heures en fait au primaire, j'ai même des petites sections de maternelle et ça va jusqu'au CM2.
Ouais.
Et quand le directeur m'a demandé, j'ai vraiment dit oui, puisque c'est, je trouve, comme Marie-Hélène a dit, que ça facilite l'évolution et puis on danse et on chante, ça facilite la mémorisation des paroles et voilà, le développement de l'enfant.
Ouais.
À travers la connaissance de son corps et puis sa voix surtout.
Ouais.
Si je puis juste me permettre, elle est dans les programmes absolument inscrite depuis la petite section jusqu'au CM2. Ouais. Hein, c'est quand même important.
Mais c'est le maître ou la maîtresse, enfin, l'instituteur ou l'institutrice qui est
extrêmement polyvalent.
Ouais.
Donc effectivement, en général, selon la formation, la personne le fait ou pas, mais en fait, dans les textes, elle doit être faite. Bon. Tout doit être fait pour un professeur des écoles.
Ouais.
Alors, voilà.
Alors il y a une exception, c'est pour les enfants des écoles élémentaires parisiennes. Il y a ce qu'on appelle les professeurs de la ville de Paris, qui sont, je crois,
des spécialistes.
Recrutés
sur concours,
ouais.
Avec un concours adapté, qui est d'un très bon niveau aussi.
Et qui dispense 2 heures de cours par semaine, je crois.
Quelque chose comme ça.
Ouais, ouais. Ouais.
Et alors, à partir du cycle 2,
ouais.
Donc, c'est-à-dire en gros du CP au CM2. Ouais.
C'est-à-dire que les enfants des écoles parisiennes sont très avantagés là-dessus par rapport... Parce que les professeurs de la ville de Paris dispensent aussi des cours d'art plastique et d'éducation physique.
Ils ont plus de... Absolument, ouais. Ouais.
Qu'avez-vous pensé les uns les autres lorsque... c'est une information qui est peut-être anecdotique, mais qui a marqué tellement de Français qui ont appris la musique, enfin qui ont découvert peut-être la musique au collège, la suppression de l'apprentissage de la flûte. Il y a 5 ans, on ne pratique plus la flûte à bec. En tout cas, ça n'est plus obligatoire aujourd'hui au collège. C'est le chant qui a remplacé. Est-ce que vous êtes convaincu par la suppression de l'enseignement de la flûte?
Pas forcément. Moi, c'était mon instrument. J'adorais l'enseigner. J'avais des orchestres de troisième qui redemandaient des morceaux chez eux à travailler. Donc, j'aime beaucoup aussi chanter et leur apprendre des tas de chansons en langue étrangère. Mais c'est vrai que la pratique d'un instrument était quand même... assez,
de cet instrument-là.
De cet instrument-là, bah oui.
Antoine,
puis ça n'a jamais été obligatoire finalement. Hein. C'est vrai qu'on constate que ça s'est complètement généralisé, mais à aucun moment les professeurs étaient obligés de faire de la flûte à bec. On pouvait faire des percussions. Certains professeurs faisaient d'instruments à clavier s'ils disposaient de plusieurs claviers dans la classe. Donc voilà, c'est vrai que certains professeurs ont regretté ceux qui étaient peut-être comme Emmanuel les plus à l'aise et qui réussissaient, qui parvenaient à des résultats tout à fait satisfaisants. Et puis d'autres ont effectivement été un petit peu soulagés de se dire que quelque part, ils pouvaient en toute bonne conscience ne pas pratiquer la flûte à bec avec les élèves. Il faut signaler aussi que pour les élèves, c'était la même chose. C'est-à-dire que certains étaient très contents de ne plus en faire et d'autres ont regretté parce que finalement, ils étaient attachés depuis la sixième à leur flûte, achetée au moment de rentrer au collège. Et ça symbolisait aussi un peu le passage de l'école primaire au collège.
Certains étaient vraiment doués, travaillaient.
On a mis davantage l'accent sur l'enseignement du chant, j'ai l'impression. Le développement des chorales, peut-être.
Ouais, ce qu'on appelle le projet musical. Donc on part de ce qu'on a dans la classe, c'est-à-dire qu'en fait la flûte, il y avait quand même derrière un projet aussi économique, c'est-à-dire pouvoir disposer d'un instrument avec des moyens qui sont républicains, enfin pour chaque famille. Hein. Mm-hmm. Et en fait, on a réduit encore le projet à la voix, à ce qu'on a sur soi. Mm-hmm. Bon.
Est-ce que la voix amène l'enfant, autant qu'un instrument, que le contact avec un instrument, à s'intéresser à la musique et à l'apprentissage plus tard de la musique?
En fait, je pense que cette... approche de recentrer sur la voix, en fait, a toujours été le cas. Bon, la voix, le corps, la percussion corporelle aussi. Enfin, pour ce qui est de mon expérience, moi, au niveau du collège, mon désir de transmettre mon instrument, qui est le violoncelle, a été vraiment central. Donc, parce que je pense que, comme vous dites, c'est un complément, un passage important de sensibiliser. Mais un instrument... qui est aussi connoté dans l'inconscient collectif à quelque chose de l'ordre de l'élite, quoi. Et donc essayer de faire du lien entre le corps, ce qu'on a, la voix, et un passage à l'abstraction qui est l'instrument, quoi. Quand même, c'est quelque chose d'un peu abstrait, malgré le fait qu'on touche et qu'on... Alors, comment faire ce lien? Je crois que c'est un peu toute la problématique, que ce soit à la flûte à bec, au violon ou à la trompette. Voilà. Et la question du prof, elle est là.
Mais est-ce qu'il y a aussi un problème, vous l'avez abordé, de moyens, tout simplement, pour fournir des instruments aux élèves?
Il y a un problème qui est aussi un faux problème. Après, ça dépend de bonne volonté politique locale. Hein. Nous, les collèges dépendent des conseils des départements. Donc moi j'étais très soutenu, j'ai obtenu 30 instruments, un orchestre, parce que j'ai défendu un projet qui me tenait à cœur, que de faire de l'orchestre avec les élèves, profitant aussi de la dynamique que la Cité de la Musique a développée parallèlement. On a joué avec l'Orchestre de Londres, etc. On a monté un travail de pratique collective, sans passer par la lecture de la partition. Enfin, en tout cas, l'idée était de proposer... au même titre que la flûte à bec ou que le chant, une approche, une sensibilisation à l'orchestre. Oui. Quoi, une sensibilisation, sans davantage de prétention.
Initier à l'orchestre, faire découvrir l'orchestre, j'ai l'impression que c'est davantage pris en compte depuis quelques années, non? On assiste, il y a même une association qui s'appelle l'Orchestre à l'école, qui encourage le développement de la pratique instrumentale.
Il y a de plus en plus d'élèves qui sont au conservatoire, en école de musique, avec des études, qui font solfège tous les mercredis après-midi, etc. Ouais. Donc... ils développent aussi cette partie instrumentale de leur côté.
Alors, il y a la pratique, il y a l'écoute aussi. Quelles sont les principales difficultés? C'est un peu cliché ce que je demande, les principales difficultés. Après, on parlera du lycée en deuxième partie, mais quelles sont les principales difficultés pour un enseignant devant faire découvrir, je ne sais pas, la troisième de Brahms? Peut-être que tout le monde ne pleure pas devant la troisième de Brahms lorsqu'on est devant des collégiens.
Ils sont réfractaires au départ. On leur met de la musique qu'ils n'ont absolument pas l'habitude d'écouter. Et du coup, c'est le fait de l'ouvrir... Ils me demandent souvent, on peut chanter Justin Bieber, on peut chanter Britney Spears. Je leur dis, mais je suis pas là pour ça. Mm-hmm. Chantez ça dans votre baignoire, mais ici, on chante autre chose. Et c'est vraiment, moi, je trouve l'ouverture d'esprit et leur faire connaître d'autres styles, d'autres genres, d'autres époques.
Benoît Fauché, il faut les amener à ce répertoire savant par des choses qu'ils connaissent déjà, ou alors...
En fait, ces questions-là, on se les pose tous.
Ouais. Vous le premier, puisque vous formez des professeurs
absolument,
de musique.
Absolument, mais par un passage qui a été un collège dans lequel j'ai vraiment tout appris avec mes élèves. C'est-à-dire de faire le lien entre ma pratique, ma culture, qui a été le violoncelle, vraiment, pour moi, ça a été ça. Puisque j'ai poussé assez loin mes études de violoncelle pour finalement choisir d'enseigner dans le modèle républicain et pas le conservatoire pour des multiples raisons. Ça, c'était... Donc, chacun son histoire. Et puis après... après, lorsqu'on fait le choix d'enseigner, on se retrouve avec des enfants de parcours, d'origine, parfois de culture et de très, très multiples. Et donc, chacun y répond, voilà. Pour ce qui me concerne, effectivement, en fait, j'ai choisi de passer par le son, donc par la prise de son. Mm-hmm. C'est-à-dire, j'écoute ce que je produis. Et si c'est le bazar, le bronx dans la classe, eh bien, on entend ce qu'on vient de produire. Mm-hmm. À partir de ça, c'est déjà un début de matière sonore. Mm-hmm. Bon, c'est un peu ce qui m'a emmené vers le travail autour de la musique électroacoustique.
Là, vous préparez la transition remarquablement. Hein. Là, on atterrit dans la musique concrète tout de suite.
C'est un métier.
Je n'ai pas choisi ce que vous allez nous faire passer maintenant par hasard.
Ouais. C'est un extrait donc, de La Marche dans le temps, c'est Pierre-Henri. Ouais. Un extrait de La Marche dans le temps de Pierre-Henri, votre choix, Benoît Fauché. Vous avez fait écouter ça, vous faites écouter ça, vous encouragez Pierre-Henri en particulier ou...
Je fais écouter ça, bon, ça a dû m'arriver, etc. Ouais. C'est davantage d'abord le titre qui je trouve, nous inspire. La Marche dans le temps, c'est quelque chose qu'on fait sans cesse dans notre boulot d'enseignant. Et puis, c'est la démarche de Pierre-Henri. Pierre-Henri, ce qui est intéressant pour nous, enseignants avec Pierre-Henri, c'est qu'il est compositeur du 20e. Qu'il a une démarche qui est plastique, c'est-à-dire de manipulation, et qu'en plus, donc, il fait le va-et-vient, le grand écart entre, là on l'entend, donc Beethoven et les riffs, enfin issus plutôt connotés électro, etc. Et donc, c'est une musique acousmatique. Voilà. Donc, c'est, pour nous, enseignants, c'est multiple. Parce que, donc,
c'est une musique qui parle à différents... qui peut parler dans les jeunes, les collégiens peuvent trouver dans le bruit urbain, dans la musique urbaine.
Alors ça, c'est vrai. Ouais. Bon, même si je crois aussi beaucoup au choc, aux chances de du choc d'écouter Brahms, comme tout à l'heure, et que ça, c'est quelque chose qui est irremplaçable. Mais chez Pierre-Henri, il y a aussi... moi, ce qui m'intéresse en tant que prof, c'est comment je vais faire pour faire manipuler, au-delà de ma voix, au-delà de mon corps, de frapper des mains, qu'est-ce que je peux faire avec... Parce que mes élèves, ils ont besoin de manipuler, ils ont besoin de jouer avec Beethoven. Alors, si je ne peux pas le faire à la flûte, je ne vais pas le faire au violon non plus comme ça du jour au lendemain, ce n'est pas vrai. Donc, ça peut être aussi un passage par des objets sonores. Ouais. Quoi. Et donc, cette manipulation, et puis oser mélanger les genres.
Alors, on s'était arrêté tout à l'heure au collège. Il faut peut-être rappeler qu'en plus de cette musique obligatoire, il y a ce qu'on appelle les classes à horaires aménagés. C'est un enseignement musical poussé en partenariat entre les collèges et les conservatoires. Il y a un certain nombre d'élèves, il y a beaucoup d'élèves aujourd'hui qui suivent ce cursus. Mais lorsqu'on arrive au lycée, la musique devient une option. Elle peut être une option dès la classe de seconde pour passer une option au bac. Je citais tout à l'heure en introduction ces trois œuvres au programme, une œuvre de Corelli, une chanson des Pink Floyd et une œuvre de Thierry Machuel. Mais qu'est-ce qu'on trouve également, Antoine Mignon, qu'est-ce qui s'offre à ceux qui veulent poursuivre plus avant l'étude de la musique en dehors de cette option lorsqu'ils arrivent en classe de seconde?
Ça prolonge ce qu'ils ont vu au collège. Alors c'est vrai que la grande différence, c'est que seuls ceux qui sont volontaires et donc motivés...
Qui sont musiciens déjà.
Alors pas forcément, ça c'est très variable en fonction des lycées, parce que c'est vrai qu'il y a eu la volonté d'ouvrir quand même ces options. Très clairement, il y a quelques années, encore pas si longtemps, finalement, on retrouvait les élèves de conservatoire qui venaient ici glaner des points pour obtenir leur bac ou avec une meilleure mention ou l'obtenir tout court. Ça s'est quand même beaucoup démocratisé parce qu'il n'y a par exemple plus de dictée musicale, il n'y a plus des choses qui relèvent du conservatoire et pas forcément de...
Là, vous parlez de l'option musique. En quelque...
De l'enseignement de la musique au lycée.
Ouais. Et donc, comment est-il structuré dans les...
Alors, il y a plusieurs options, c'est un peu compliqué, mais tout ça, on peut retrouver ça facilement sur Internet ou se rapprocher des enseignants. Mais donc, il y a dès la seconde deux enseignements distincts. Le premier, c'est l'enseignement qui s'appelle Art du son, où justement, puisqu'on parlait de Thierry Henry, on va essayer d'ouvrir un peu plus finalement le monde sonore et pas seulement la musique au sens un peu traditionnel. Et c'est vrai que là, par exemple, travailler sur Pierre Henry, c'est tout à fait pertinent. Et vous avez raison, Jérémy, de dire qu'on peut d'autant plus tisser des liens peut-être avec d'autres musiques et comme ça accrocher certains élèves qui seraient plus loin du monde, notamment de la musique classique, par exemple. Donc il y a cet enseignement d'art du son et il y a aussi l'enseignement, toujours, l'option dite option facultative musique, telle qui existe depuis de nombreuses années et qu'on peut effectivement poursuivre.
Que vous enseignez, vous ?
Que j'enseigne, effectivement, et qu'on peut poursuivre jusqu'au bac pour passer cette fameuse épreuve de musique au bac.
Et comme c'est une option, vous avez du mal à trouver des élèves ou alors c'est une option qui est très demandée finalement?
Ça dépend en fait de la situation du lycée. C'est-à-dire que en fonction des zones géographiques, ça sera plus ou moins difficile de convaincre certains élèves. Ça dépendra aussi si vous êtes en centre-ville avec un conservatoire à côté. Ça dépendra. Donc moi, par exemple, à Meaux, j'ai pas du tout un public conquis d'emblée. J'ai très peu d'élèves qui sont au conservatoire. Donc c'est vraiment plutôt un public scolaire qui, à la fin de la troisième, des élèves qui aiment la musique, qui n'ont pas envie d'arrêter. Et qui donc continuent au lycée, mais sans trop finalement savoir pourquoi précisément, au-delà qu'ils aiment la musique. Donc c'est encore un public à conquérir, c'est encore un public où on compte sur leur curiosité, sur leur ouverture d'esprit, et c'est ça aussi l'avantage des options au lycée, c'est qu'a priori, cette curiosité, quand même, elle est là et on essaye d'en profiter.
Les lycéens qui s'engagent dans la série, ce qu'on appelle la série L, Art Musique, vers quoi se dirigent-ils après, lorsqu'ils ont leur baccalauréat? On a une idée un petit peu ou pas?
Là aussi, c'est en fait très variable. C'est un bac littéraire, avant tout, donc faut pas l'oublier, c'est pas le bac TMD, Technique de la musique et de la danse, où là, c'est vraiment un bac technologique spécialisé en musique. Donc après, avec ce bac littéraire, les élèves peuvent suivre n'importe quelle étude supérieure.
Et avec le bac TMD, alors pour le coup, qu'est-ce qu'on fait?
C'est quand même plus recentré sur les métiers de la musique. Ouais. Alors c'est pas forcément de la pratique, mais ça peut être l'ingénierie du son, ça peut être tous ces métiers.
C'est une pratique aussi. Une pratique.
Et évidemment, il y a une épreuve de pratique qui réclame un niveau tout à fait exigeant. Donc c'est là la grande différence avec justement l'enseignement de spécialité en série littéraire. Donc ensuite, moi, n'ayant pas d'élèves forcément particulièrement avancés en instrument, mes élèves poursuivent. Alors j'en ai eu quelques-uns qui ont poursuivi en musicologie, mais c'est une petite minorité. La plupart, certains vont poursuivre des études pour faire des études de lettres, pour faire des études de psychologie, pour faire
bref. En IPOCAN, il y a une grosse option musique qui continue, qui est vraiment extraordinaire.
En IPOCAN,
mais donc faut pas penser que l'option de spécialité en L n'est réservée que pour les musiciens accomplis qui voudraient faire une carrière musicale.
D'accord.
Avant tout un bac L. C'est vrai que souvent, et de plus en plus, les parents sont un peu inquiets en pensant qu'avec le bac L, il n'y aura aucun débouché des bouchers et leur enfant sera un saltimbanque qui aura du mal à gagner sa vie, etc. Non, il faut les rassurer sur ce point-là. C'est un bac littéraire comme un autre.
Vous avez mentionné la musicologie. C'était le sujet d'une émission il y a quelques semaines. Vous êtes tous ici passés par le cursus musicologie.
Par la Sorbonne.
Par la Sorbonne.
Oui.
Benoît Fauché, vous n'êtes pas passé par la musicologie pour devenir professeur de musique?
Non.
Non.
Non, j'ai commencé des études de sciences, puis je suis parti au conservatoire à Boulogne, mais faire que du violoncelle.
D'accord.
La musique de chambre, aussi, avec d'excellents professeurs, Hortense Cartier-Bresson, etc. Ensuite, je suis parti aux États-Unis, continuer mon travail de violoncelle.
D'accord.
J'ai eu la chance de partir avec des bourses, etc., découvrir, rencontrer des musiciens hongrois à Bloomington, puis Boston. Et en fait, le parcours universitaire américain de la pratique de l'instrument, je suis revenu en France, et j'ai passé l'agrégation.
D'accord.
Mais je devrais peut-être pas le dire au micro, parce qu'en fait, finalement, je sais pas du tout.
Oui, c'est ça.
Si, j'ai un master américain,
oui.
Et donc, j'ai passé l'agrégation, je me suis retrouvé. Voilà, mais donc la musicologie française, en tout cas la musicologie, non.
Ça n'est pas un cursus que vous avez suivi. En tout cas, c'est le cursus qui mène, et, disons, le gros du corps d'enseignants passe par la musicologie.
Oui.
Tel qu'on l'enseigne dans les universités françaises. Il y a aussi, parce qu'il y a plein de choses qu'on trouve, il y a le DUMI, le diplôme universitaire de musicien intervenant.
Oui.
Ça permet d'enseigner au collège et au lycée également.
Ça permet d'être un musicien effectivement rattaché à un conservatoire, donc à une mairie, et donc davantage au premier degré, parce que la mairie, ce sont les écoles.
Alors, le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, a annoncé depuis quelques mois déjà que plus de 40 000 postes allaient être créés à la rentrée prochaine, je crois, ou...
Progressivement.
Est-ce qu'on manque de professeurs de musique en France?
Oui, tout comme les mathématiques ainsi que les lettres classiques, l'année dernière, le processus amorcé par les réformes précédentes avait fini de siphonner finalement le vivier de candidats, ce qui faisait qu'on avait presque un ratio inférieur au nombre de places.
Je crois avoir les chiffres. Il y avait 100 postes, il y en a 70 qui ont au CAPES, qui ont été
C'était ça, enfin,
honorés.
C'était de cet ordre.
Ouais, ouais.
Mais pour un nombre de candidats équivalent au nombre de places. Enfin, ils ont été obligés de... Bref. Alors nous, on s'était mobilisés, les collègues d'IUFM sur toute la France, avec l'inspecteur général, etc. Donc on a réussi aussi par... je pense que la réforme prochaine y contribue largement, à inverser la tendance. Et à nouveau, ça y est, on a un vivier de master qui se présente avec des très bons étudiants qui vont se présenter au concours. C'est rassurant.
On n'est pas toujours très aidé par l'image. Vous savez qu'on voit à travers les pubs, les films, etc. Alors, du prof de musique avec sa flûte à bec.
C'est fini, on parle plus de flûte à bec, on a compris.
C'est le Bronx intégral.
Dans le nouveau film Prof, je ne sais pas si vous avez vu la bande-annonce, on le voit, il est complètement blasé avec sa flûte si dorée. Donc chez nous...
Un clin d'œil à Christophe Bourseiller.
Bonjour Christophe. Non, il y a certains établissements où l'enseignement de la musique est confié à des professeurs d'autres, anglais, français. Est-ce que ce n'est pas un peu... mal perçu par vous qui êtes professeur de musique?
C'est surtout pas très rassurant.
Oui, c'est ça.
S'ils ont la compétence, tant mieux. Enfin, mais c'est surtout pas très rassurant parce que finalement, le CAPES, l'agrégation, date de 1972, c'est assez récent. Ouais. Et la tendance inverse pourrait vite basculer, c'est-à-dire on fait disparaître, puisqu'on est un peu musicien, on pourrait peut-être arriver à donner
quelques
cours.
C'est révélateur de la place de la musique dans l'enseignement?
Je ne crois pas. J'ai envie d'être plus optimiste que ça, mais parce que vraiment la tendance actuelle est en train... Mais, selon les gouvernements, les tendances, ça va et ça vient. On est descendu à 2 étudiants quand même, nous à l'IUFM de Paris, l'année dernière, 2 étudiants en formation. Au niveau des stagiaires, on en a 0 cette année. Bon, là par contre, le retour des jeunes, des Master 1 avec une quinzaine d'étudiants, c'est rassurant pour nous. Mais moi, lorsqu'il y a 15 ans, j'étais étudiant, on était une quinzaine en stage. On était 25, pardon, en stage. Voilà, donc les chiffres, vous voyez, on est descendu à 2, voire 0. Quoi.
Ce sera malheureusement l'un des mots de la fin.
Bah, je voudrais être plus optimiste que ça.
on reste optimiste, mais c'est en tout cas là-dessus, s'achève l'émission. Je voudrais signaler, parce que Antoine Mignon, qu'on vous retrouve régulièrement sur France Musique une fois par mois, je crois, dans l'émission de Dominique Boutel.
Voilà, exactement, dans la matinale du samedi.
Voilà, et vous pouvez, et qu'on peut également retrouver le projet que vous menez avec vos lycéens, c'est ça?
Oui, on parlait de l'orchestre tout à l'heure et de la découverte du monde de l'orchestre. C'est vrai que ça fait 2 ans que je suis en partenariat avec le Philharmonique de Radio France, et que mes élèves ont la chance de suivre l'orchestre comme ça, et ça aboutit l'année dernière et a priori cette année aussi sur une émission sur France Musique d'ailleurs, où les élèves présenteront leur projet et la chance de fréquenter ce milieu qui a priori, pour la grande majorité, ne connaissait pas du tout au départ.
Très bien, merci à tous d'être venus,
merci
à Nelly Portal pour la préparation de l'émission, Benjamin Vignal à la technique, Eric Lancien à la réalisation. Bonne soirée, à samedi prochain.